Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand nous reprenons la lecture du livre « Les Quatre » écrit par Agatha Christie, Hercule Poirot et Hastings font le point sur l'enquête à propos des Quatre. Écoutons-les. N'oubliez pas que nous avons établi l'identité du numéro 2 et du numéro 3 et que nous avons étudié à loisir, si l'on peut dire, les méthodes du numéro 4. Soyez-en persuadés. Hastings, nous avons parcouru un bon bout de chemin. Il est vrai que je ne suis pas encore à même d'accuser formellement Ryland ou Madame Olivier. Qui me croirait ? Vous ai-je dit que j'ai confié mes soupçons à quelques personnages haut placés, entre autres à Lord Aldington ? J'ai travaillé avec lui dans l'affaire du vol des plans de sous-marin. Il connaît mes méthodes et il a confiance en moi. À l'heure qu'il est, il est au courant du mystère des quatre, et si certaines personnes doutent encore, lui, il me croit. Ryland, Madame Olivier et Li Shangyan peuvent agir à leur guise, leurs gestes n'en sont pas moins soigneusement observés. Addington connaît-il aussi l'existence du numéro 4 ? Comme je viens de vous le dire, je commence seulement à comprendre ses méthodes. Vous pouvez sourire, Hastings. Je n'en suis pas moins sûre que c'est là le meilleur moyen. Je dois connaître la personnalité de cet individu au point de prévoir ses réactions dans telle ou telle circonstance. N'oubliez pas que nous nous livrons à un véritable duel. J'apporte tous mes soins à toujours mieux connaître la mentalité de l'adversaire, sans rien lui révéler de la mienne. J'estime qu'il est en pleine lumière, alors que je demeure dans l'ombre. Soyez certains qu'ils sont chaque jour intrigués davantage par mon inactivité apparente. Un fait certain, c'est qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils n'ont plus à tenter à votre vie, pas plus qu'ils n'ont organisé de nouvelles embûches. Et, à vrai dire, j'en suis un peu surpris. Ils disposaient d'un ou deux moyens de nous atteindre qui auraient pu leur venir à l'esprit. Vous comprenez, je pense. Une machine infernale quelconque ? Poirot eut un geste d'impatience. Mais non, j'en appelle à votre imagination. Vous ne trouvez rien de mieux que des bombes placées dans la cheminée ? Hastings, allons. Malgré le mauvais temps, je vais faire un petit tour pour m'éclairer le cerveau. Et j'en profiterai pour acheter des allumettes. À propos, mon ami, est-ce que vous lisez à la fois l'avenir de l'Argentine, le miroir de la société, l'élevage du bétail à cornes, la piste rouge et le sport dans les montagnes rocheuses. J'éclatai de rire et j'admis que, pour le moment, j'occupais mes loisirs à la lecture de « La piste rouge ». Dans ce cas, remettez les autres livres en place, me dit Poirot en se lamentant. Quand donc aurez-vous de l'ordre et de la méthode ? À quoi sert une bibliothèque ? Je m'excusai humblement auprès de Poirot et après avoir rangé les livres, je sortis et il me laissa au plaisir de la lecture. J'espère que l'auteur de la piste rouge voudra bien m'excuser si j'avoue que Mrs. Pearson, en frappant à la porte, me tira d'une douce somnolence. « Un télégramme pour vous, capitaine !» N'attendant rien de grave, je le décachetai sans hâte. Mais son contenu me pétrifia positivement. Ce télégramme m'était adressé par Bronson, le directeur de ma ferme en Argentine. Il était ainsi libellé. « Mrs. Hastings disparue hier, craint qu'elle n'ait été enlevée par bande appelée Grand Quatuor. Télégraphiez instruction et avisez police, aucune trace. Signé Bronson. » Je fis signe à Mrs. Pearson de se retirer. Je restai abasourdi, relisant sans cesse le câble de Bronson. Cendrillon enlevé, Cendrillon aux mains des quatre. Que faire ? Poirot, Poirot, il me faut Poirot pour me conseiller, pour contrecarrer leurs plans infernaux. Calmons-nous, il reviendra d'un instant à l'autre. On frappa de nouveau à la porte et Mrs. Pearson fit une seconde apparition. Un pli pour vous, capitaine. C'est un païen de Chinois qui l'a apporté. Il attend en bas. Je saisis la note qui était concise et nette. Si vous désirez revoir votre femme, suivez immédiatement le porteur de cette lettre et ne prévenez pas votre ami, sinon votre femme en souffrira. Elle était signée d'un grand 4. Qu'auriez-vous fait à ma place, vous qui venez de lire ce billet? Je disposais de peu de temps pour réfléchir. Je ne voyais qu'une seule chose, Cendrillon, aux mains des bandits, et j'obéis. Je ne pouvais exposer ma femme à la torture. Il ne me restait plus qu'à suivre ce Chinois où bon lui semblerait. C'est vraisemblablement un piège, me disais-je. C'est la capture, c'est la mort. Mais il s'agit de l'être qui m'est le plus cher au monde. Impossible d'hésiter. Si seulement je pouvais laisser un mot à Poirot. Une fois sur la piste, il pourrait peut-être tout arranger. Devais-je essayer? Oui, mais si le Chinois montait pour s'assurer que je m'étais conformé à ses inscriptions. Le fait qu'il était resté en bas me rendit encore plus méfiant. Je savais les 4 si fort que j'étais disposé à leur accorder une omnipotence insoupçonnée. Au point où j'en étais, toutes les personnes qui m'approchaient devaient être des agents du grand quatuor. Et si je laissais le télégramme? En le voyant, Poirot apprendrait l'enlèvement de Cendrillon et saurait pour qui il avait été opéré. Toutes ces idées se croisèrent dans mon esprit en moins de temps qu'il m'en faut pour les dire. 2 minutes après avoir reçu la lettre, je mettais mon chapeau et mon pardessus et je descendais rejoindre le guide qui m'attendait. Un commissionnaire était un grand Chinois, correctement vêtu, bien que ses habits fussent usés. Sans remuer un muscle de son visage, il me salua et me demanda d'une voix chantante. « Vous, capitaine Hastings ?»« Oui, répondis-je. « Me rendre la lettre, s'il vous plaît ?» Je m'y attendais et la lui remis sans mot dire. Et il poursuivit. « Vous reçu des pêches aujourd'hui ? Oui ? Viennent d'arriver d'Argentine ? Oui ?» J'admirais une fois de plus en grinçant des dents la perfection du système d'espionnage de la sinistre bande. Il se doutait que Bronsen me télégraphierait et avait décidé d'en profiter pour m'influencer. Il me sembla inutile de nier ce qui était manifestement vrai. « Oui, répondis-je, j'ai reçu une dépêche. Allez chercher tout de suite, oui ?» Tremblant de colère, je dus m'exécuter. En remontant, l'idée me vint d'aviser Mrs. Pearson de l'enlèvement de ma femme. Mais, apercevant la petite bonne aux côtés de notre propriétaire, j'hésitais. Peut-être m'épiait-elle? Le texte de la lettre des 4 était gravé dans ma mémoire. Je décidai de ne rien dire. Après avoir pris le télégramme, je me préparais à redescendre lorsqu'une pensée me frappa. Ne pouvais-je laisser un indice capable de mettre Poirot sur la bonne voie et de passer inaperçu de mes ennemis? Je courus à la bibliothèque et je fis tomber 4 livres sur le parquet. Mon ami les verrait certainement, et après sa petite leçon de morale donnée tout à l'heure, ce désordre le choquerait immédiatement. De plus, je mis une pelletée de charbon dans le feu en prenant soin de laisser tomber 4 boulets devant la cheminée. Je ne pouvais rien faire d'autre. Il ne me restait qu'à souhaiter que ces signes fussent bien interprétés par Poirot. Je me hâtai de descendre et je remis au Chinois la dépêche d'Argentine. Il la lut, puis il la glissa dans sa poche. Et d'un geste, il m'invita à le suivre. Après avoir longuement marché à pied, nous prîmes un autobus puis un tramway. Nous dirigeant vers l'est, nous traversâmes d'étranges quartiers dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. En arrivant au dock, je compris que j'étais en plein quartier chinois. Nous nous engageâmes dans un dédale de ruelles et d'impasses dont l'aspect lamentable m'épouvanta. Enfin, nous nous arrêtâmes devant une maison délabrée. Après 4 coups donnés à la porte par mon mentor jaune, un autre Chinois vint immédiatement nous ouvrir et s'effaça pour nous laisser entrer. Le bruit du verrou tiré derrière moi sonna le glas de mes derniers espoirs. J'étais aux mains de l'ennemi. Le deuxième Chinois me fit descendre quelques marches branlantes qui aboutissaient à une cave remplie de balles et de barils qui dégageaient une forte senteur d'épices. Je me sentis enveloppé d'une atmosphère orientale, tortueuse et sinistre. Mon pilote fit rouler de côté 2 des nombreux barils et j'aperçus dans le mur une ouverture basse en forme de tunnel. Il me fit signe de m'y engager et je suivis un long couloir si bas que je ne pouvais me redresser. Bientôt, j'arrivai dans une autre cave. Le Chinois frappa 4 coups à l'un des murs qui glissa comme un décor de théâtre. Un palais des 1001 nuits s'offrit à ma vue. La pièce longue et basse, tapissée de riches broderies orientales, était éclairée à giorno. Des parfums étranges alourdissaient l'air. 5 ou 6 divans et d'admirables tapis constituaient tout l'ameublement. Derrière une tenture, une voix se fit entendre. « Avez-vous amené votre invité ?»« Excellence, il est ici !» répondit mon guide. « Qu'il entre !» La tenture se souleva. Dans l'alcôve qu'elle dissimulait se trouvait un immense divan noyé dans une avalanche de coussins, parmi lesquels trônait un oriental, grand, mince, drapé dans des vêtements splendidement brodés. À la longueur de ses ongles, je compris que j'étais en présence d'un homme considérable. « Asseyez-vous, je vous prie, capitaine Hastings, » me dit-il en me faisant signe de la main. « Je suis heureux que vous ayez bien voulu me rendre visite. »«
Êtes-vous Li Shang-Yen ? » demandai-je.
« Ma foi, non. Je suis un de ses plus humbles serviteurs. J'exécute simplement ses ordres, tout comme le font mes collègues dans d'autres pays. » « En Argentine, par exemple. » J'avançai d'un pas. «
Où est ma femme? Qu'en avez-vous fait ?»«
Elle est en lieu sûr et personne ne la trouvera. Jusqu'à présent, il ne lui a été fait aucun mal. Vous m'entendez bien, je dis « jusqu'à présent ». Une sueur froide baigna mon front. Je fixai le démon oriental dont le sourire ressemble plutôt à une grimace.
« Que voulez-vous » m'écriai-je. « De l'argent ?»«
Mon cher capitaine Hastings, nous ne voulons pas vous priver de vos petites économies. C'est une supposition fort intelligente de votre part. J'imagine que votre ami ne l'aurait pas faite. »«
Je suppose, dis-je en ponctuant bien chaque mot, que vous alliez me prendre dans vos filets. Eh bien, c'est chose faite. » Traitez-moi comme vous l'entendez, mais relâchez ma femme. Elle n'est au courant de rien et ne peut donc pas vous être utile. Vous vous êtes servi d'elle pour m'attraper. Maintenant que vous me tenez, rendez-lui la liberté. »
Mon interlocuteur se caressa doucement la joue tout en me regardant de ses petits yeux obliques.
« Vous allez trop vite, » dit-il de sa voix veloutée, « et vous vous méprenez légèrement sur nos intentions. « Vous avoir n'est pas notre but, mais grâce à vous, nous aurons votre ami Hercule Poirot. »«
Je crains fort que non, » dis-je avec un petit rire.
« Voici ma proposition, » continua-t-il, comme s'il ne m'avait pas entendu. « Vous allez écrire une lettre à Monsieur Hercule Poirot, le priant de venir vous rejoindre. »
« Jamais je ne ferai une chose pareille. »
Les conséquences de ce refus vont être désagréables.
Au diable vos menaces!
Avez-vous envie de mourir?
J'essayais de ne pas laisser transparaître mon épouvante.
À quoi bon vouloir m'intimider? la police serait immédiatement à vos trousses. » Le disciple de Li Shangyan frappa dans ses mains. Et deux de ses serviteurs apparurent comme par enchantement. Chacun d'eux me saisit par un bras, leur maître leur donna un ordre en chinois et ils m'entraînèrent dans un coin de la pièce. L'un d'eux se baissa et brusquement, sans le moindre avertissement, le sol céda sous mes pieds. Si le second chinois ne m'avait pas retenu, je me serais abîmé dans le gouffre béant qui venait de s'ouvrir et du fond duquel montait le vacarme d'une chute d'eau. « C'est la rivière que vous entendez, » reprit l'homme assis sur le divan. « Réfléchissez bien, capitaine Hastings. Si vous persistez dans votre refus, vous allez plonger la tête la première dans l'éternité. Les flots ténébreux vous engloutiront pour toujours. Pour la dernière fois, acceptez-vous d'écrire cette lettre ?» Je ne prétends pas être plus courageux que la majorité de mes semblables, et j'avoue sans embâge que je me sentais empoigné par une peur atroce. Nul doute, ce démon de chinois parlait sérieusement. Si je refusais de m'exécuter, c'était l'adieu définitif à ce bon vieux monde. M'efforçant de parler d'une voix ferme, je répondis : « Non, que le diable vous emporte avec votre lettre !» Puis, involontairement, je fermai les yeux et je fis une courte prière.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 13. En route vers le piège. Il est rare, je crois, qu'un homme se sente aussi près de la mort. En refusant définitivement la proposition du Chinois, j'avais l'impression d'avoir prononcé mes dernières paroles sur cette terre. J'étais prêt à rouler dans le torrent qui écumait à mes pieds. Je croyais déjà suffoqué, je confiais mon âme à Dieu. À ma surprise, j'entendis un rire bref. J'ouvris les yeux et je vis l'homme sur le divan faire signe à mes deux gardiens de me ramener vers lui. « Vous êtes un homme courageux, capitaine Hastings, me dit-il. C'est une qualité que nous autres orientaux apprécions vivement. Je m'y attendais d'ailleurs, mais nous voici au second acte de notre petit drame. Vous venez d'affronter votre propre mort. L'envisagez-vous pour quelqu'un d'autre ?»« Que voulez-vous dire ? » lui demandai-je. Une peur épouvantable me transperçait de part en part. Vous n'avez certainement pas oublié la dame qui est en notre pouvoir, la rose du jardin. Je le regardais en proie à une angoisse terrifiante qui me rendait muet. Je crois, capitaine Hastings, que vous allez immédiatement écrire cette lettre. Voyez, j'ai ici un formulaire de dépêche dont le texte dépendra de vous. N'oubliez pas que votre femme est en notre pouvoir. Toujours avec le plus grand sang-froid et sur le même ton aimable, mon bourreau continua. « Tenez, capitaine, voici une plume. Écrivez, sinon... »« Sinon ?»« Sinon, la femme que vous aimez mourra, lentement, atrocement. Mon maître Li Shangyan, à ces moments perdus, s'amuse à inventer de nouvelles méthodes de torture. « Mon Dieu, m'écriai-je, misérable, vous ne ferez pas cela ?» Dois-je vous faire le récit de quelques-unes de ces trouvailles ? Sans faire attention à mes protestations, il se mit calmement à décrire des atrocités. Finalement, je me bouchai les oreilles avec un cri d'horreur. Cela vous suffit, capitaine Hastings ? Eh bien, prenez la plume et écrivez. Jamais vous n'oseriez. Vous savez que nous osons tout. Dépêchez-vous d'écrire. Et dans ce cas, votre femme recouvrera la liberté, la dépêche ordonnant de la relâcher partira immédiatement. Comment puis-je être sûr que vous tiendrez votre promesse ? Je vous le jure, sur les tombes sacrées de mes ancêtres, réfléchissez. Pourquoi chercherai-je à lui faire du mal, du moment que notre but sera atteint? Et Poirot? Nous le tiendrons en lieu sûr jusqu'au complet achèvement de nos opérations. Ensuite, il pourra partir. Me le jurez-vous réellement? Je vous en fais le serment. Que cela vous suffise. Je faiblissais. J'allais trahir mon ami. Pour le vouer, à quel sort? J'eus encore une hésitation, puis la terrible conséquence de mon refus me revint à l'esprit, tel un cauchemar. Avec un haut-le-corps, je m'apprêtais à écrire. Peut-être qu'en dirigeant habilement ma lettre, je parviendrai à glisser à Poirot un avertissement lui permettant d'éviter le piège. C'était mon dernier espoir. Il fut de courte durée, car la voix suave se fit entendre de nouveau. Permettez-moi, je vous dicte cette lettre. Il consulta des notes étalées devant lui et commença. Mon cher Poirot, je crois être sur la piste des quatre. Un Chinois est venu me voir cet après-midi et m'a attiré ici à l'aide d'un message falsifié. Heureusement, j'ai découvert son jeu et je suis parvenu à m'enfuir. J'ai renversé les rôles et je crois avoir fait du bon travail. Je vous fais parvenir ce mot par un jeune gaillard auquel vous voudrez bien donner un bon pourboire pour sa peine. Je lui ai promis si le pli vous parvenait dûment. Je surveille la maison et je n'ose pas la quitter. Je vous attendrai jusqu'à 6 heures. Si je ne vous vois pas passer cette heure-là, j'essaierai de pénétrer seul à l'intérieur. L'occasion est trop bonne pour la laisser échapper, même si le porteur de ce pillet ne vous trouvait pas, si, comme je l'espère, il a la chance de vous voir. Faites-vous tout de suite conduire ici par lui. Camouflez vos moustaches. Si quelqu'un faisait le guet à une des fenêtres de la maison, vous pourriez être reconnu. Bien à vous, en hâte, A.H. Chaque mot augmentait mon désespoir. Les quatre étaient diantrement malins. Je constatais combien chaque détail de notre vie leur était familier. C'était exactement la lettre que j'aurais pu être amenée à écrire. Le fait de mentionner la visite du Chinois qui m'avait attiré détruisait toute la portée de mon manège. Les quatre livres jetés sur la terre avant mon départ ne serviraient plus à rien. On m'avait tendu un piège et je m'en étais aperçu à temps. Voilà quelle serait la conclusion de Poirot. L'heure était également bien calculée. En recevant la lettre, Poirot aurait juste le temps d'accourir, accompagné du guide innocent. Ne voulant pas me laisser pénétrer seul dans la maison, Poirot n'hésiterait pas un instant à venir prendre le commandement de l'opération. Lorsque j'eus terminé, mon adversaire prit le billet, le lut, l'approuva d'un signe de tête et le donna à un des silencieux serviteurs qui disparut derrière une des portières de soie. Souriant aimablement, l'homme qui venait de m'imposer sa volonté s'empara d'un formulaire de dépêche, le remplit et me le tendit. Je lus « Relâchez immédiatement la femme blanche ». J'eus un soupir de soulagement. « L'expédiez-vous tout de suite ?» Il sourit en secouant la tête. « Je l'enverrai dès que M. Hercule Poirot sera ici, pas avant. Cependant, vous aviez promis. Si mon plan ne réussissait pas, je pourrais avoir encore besoin de votre femme pour vous encourager à faire d'autres démarches. » Je devins blême de colère. Si jamais... Il leva une longue main jaune. « Ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas que notre plan échoue et je tiendrai ma promesse. Si vous ne te la tenez pas, j'ai juré sur la tombe de mes ancêtres. Ne craignez rien. Restez ici. Mes domestiques vont s'occuper de vous pendant mon absence. » On me laissa seule dans cet étrange et luxueux repère souterrain. Un des domestiques revint avec un plateau portant des rafraîchissements. Mais j'étais bien trop angoissée pour pouvoir manger. Bientôt le maître revint, grand, majestueux, dans ses vêtements de soie flottants. Conformément à ses ordres, on me reconduisit à travers le couloir dans la maison où j'étais tout d'abord entrée. On m'installa dans une pièce du rez-de-chaussée dont les volets étaient baissés. Mais à travers les fentes, je voyais la rue. Un vieil homme aux vêtements déchirés faisait les 100 pas sur le trottoir opposé. Lorsque je le vis faire un signe dans la direction de la maison, je compris qu'il était posté là en qualité de sentinelle. Mon bourreau se pencha vers moi. « Nous avons réussi. Hercule Poirot est tombé dans le piège. Le voici qui approche, accompagné du jeune guide. « Maintenant, capitaine Hastings, vous avez encore un rôle à jouer. Il n'entrera que si vous vous montrez sur le pas de la porte et si vous lui faites signe d'approcher. « Comment ? » m'écriai-je révolté. « Vous serez seul, capitaine. » Mais souvenez-vous de ce qui attend votre femme si vous ne vous acquittez pas de votre mission. Si Hercule Poirot a le moindre doute et n'entre pas, votre femme mourra après 1000 tortures. Attention, le voici. L'âme meurtrie, en proie à un déchirement terrible, je reconnus à travers les persiennes mon ami qui se promenait en face. Son col était relevé et un grand cache-nez jaune dissimulait le bas de son visage. Mais il n'y avait pas à se tromper. C'était bien sa démarche, son allure, sa tête en pain de sucre. Ce brave Poirot arrivait à mon secours sans se douter de ma trahison. À côté de lui, un gamin londonien très authentique lui indiquait la maison.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Je lis pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Je sortis dans le hall et sur le signe du maître, un des Chinois m'ouvrit la porte. « Souvenez-vous du prix que paiera votre femme ?» me dit à voix basse mon ennemi. J'étais dehors et d'un geste, j'appelais Poirot qui s'empressa de traverser la rue. « Ah ! Alors mon bon Hastings, sain et sauf ?» Je commençais à m'inquiéter. Vous êtes parvenu à entrer ? La maison est donc vide ? Oui, dis-je d'une voix que je m'efforçais de rendre naturelle. Elle doit avoir une issue secrète. Entrez et cherchons-la. Je reculai sur le seuil et, en toute innocence, Poirot s'apprêta à me suivre. À cet instant, je n'y tins pas. Ma tête était sur le point d'éclater. Je vomis ce rôle de Judas que j'étais en train de jouer. « Reculez, Poirot !» m'écriai-je. « Reculez, si vous voulez rester sauf. C'est un traquenard. Ne vous occupez pas de moi, fuyez !» Pendant que je parlais, ou plutôt que je hurlais, des mains cruelles me tenaillaient. Un des domestiques chinois se précipita dans la rue pour empoigner Poirot. Ce dernier bondit en arrière, le bras levé. Subitement, je me vis entouré d'un immense nuage de fumée qui me suffoquait, qui me tuait. Je me sentis tomber. C'était la mort. Je revins à moi, lentement, péniblement. Je distinguais le visage de mon ami Poirot penché sur moi avec inquiétude. Il poussa un cri de joie lorsqu'il me vit ouvrir les yeux. « Ah ! Vous ressuscitez, mon pauvre ami ! Où suis-je » demandai-je péniblement. « Mais chez vous ? Chez nous ?» Je jetai un regard autour de moi et reconnus avec surprise notre appartement. Devant le foyer, je revis les 4 morceaux de charbon. Poirot avait suivi mon regard. « Oui, ça a été une fameuse idée de votre part, comme pour les livres. Si jamais quelqu'un me dit que vous n'êtes pas un grand cerveau, je le traiterai de menteur. » Alors, vous avez compris ce que je voulais dire ? Suis-je donc un imbécile ? Bien sûr que j'ai compris. Ça a été un bon avertissement qui m'a donné le temps de mettre au point mes plans. J'ai compris que les 4 vous avaient enlevés. Dans quel but ? Pas pour vos beaux yeux. et pas davantage parce qu'il vous craignait et qu'il voulait se débarrasser de vous. Non, le but était clair. Ces messieurs se servaient de vous comme d'un appât pour s'emparer du grand Hercule Poirot. Depuis longtemps, je m'attendais à quelque chose de ce genre. J'ai donc fait prévenir et préparer mes préparatifs. Peu après, comme prévu, le petit commissionnaire, le petit innocent des gamins londoniens est arrivé. J'ai avalé la couleuvre et je me suis empressée de suivre le guide que vous aviez eu la bonne idée de m'envoyer. Quelle chance qu'il vous ait permis d'attendre sur le pas de la porte. Moi qui craignais d'avoir à les supprimer avant de vous découvrir. Les supprimer ? Demandai-je faiblement. Mais comment ? Oh, ce n'était pas un tour de force. J'avais tout préparé d'avance. Vous connaissez la devise des Boy Scouts ? Être prêt. Je l'étais. Vous savez que j'ai parmi mes amis et obligés un distingué chimiste spécialisé dans les gaz asphyxiants. Il m'a préparé ma petite bombe, simple et facile à transporter. Il suffit de la jeter, de respirer la fumée et c'est l'inconscience la plus complète. Vous êtes qualifié pour en juger. Une fois la bombe lancée, j'ai sifflé. Des hommes de Jap, actifs et intelligents qui me suivaient, sans pour les apperçus, sont venus à mon secours. Pourquoi la fumée ne vous a-t-elle pas incommodé, vous ? Encore un petit truc. Votre ami, le numéro 4, car c'est lui sans doute qui a rédigé le texte de cette lettre ingénieuse, s'était permis, si vous vous en souvenez, une plaisanterie au sujet de mes moustaches. Eh bien, ce ne sont pas elles que je dissimulais sous mon cache-col. C'est un inhalateur. Brusquement, toutes les horribles menaces au sujet de ma femme me revinrent à l'esprit. Un brouillard sanglant m'enveloppa et je m'évanouis. Lorsque je revins de nouveau à moi, Poirot me força à boire un peu d'alcool. « Que vous arrive-t-il, mon cher ami ? » Petit à petit, je lui fis le récit de ce qu'il m'avait fallu endurer. Terriblement ému, Poirot s'écria « Mon pauvre ami, comme vous avez dû souffrir, et moi qui ignorais tout, je vous en prie, rassurez-vous, tout va bien !»« Vous voulez dire que vous la retrouverez ? Mais elle est en Argentine, et bien avant notre arrivée, elle sera morte. »« Non ! Vous ne me comprenez pas, elle est saine et sauve. Jamais ils ne l'ont enlevée. Mais j'ai reçu une dépêche de Bronsen. Pas du tout. Vous avez reçu une dépêche signée Bronsen, ce qui est tout à fait différent. Voyons, n'avez-vous jamais songé qu'une organisation comme les quatre, ayant des ramifications dans le monde entier, pouvait facilement vous atteindre par l'intermédiaire de Cendrillon qui vous est si cher ? Non, jamais, je n'y ai pas pensé. Moi, j'y avais pensé. Et si je ne vous en avais jamais parlé, c'était pour ne pas vous inquiéter inutilement. Cela ne m'avait pas empêché de prendre les devants. Toutes les lettres de votre femme paraissaient venir du rancho, c'est entendu. Mais en réalité, Cendrillon habite depuis 3 mois un lieu sûr que je lui ai assigné. Je l'observais longuement et presque incrédule. Est-ce bien vrai ? Ne me dites-vous pas cela pour me tranquilliser ? Vous pouvez me croire, Hastings. Ils vous ont torturé avec un mensonge. Je détournai la tête. Mon ami me posait sa main sur l'épaule. Il y avait dans sa voix une intonation que je n'avais jamais encore entendue. Vous n'aimez pas que je vous embrasse, Hastings. Eh bien, je serai très anglais et je vous dirai seulement, sans me laisser aller à des effusions sentimentale, que dans cette dernière aventure, tous les honneurs sont pour vous. Heureux, celui qui possède un ami comme le mien. Dans la suite de notre lecture, c'est surtout Hastings qui, cette fois, est le souffre-douleur du chinois représentant Li Shanyang lui-même. Non seulement Hastings apprend que sa femme est dans les mains des quatre, mais en plus, il doit être celui qui permettra la capture de Hercule Poirot par les quatre. Mais Hercule Poirot, comme il se doit, s'en sort bien et déculpabilisé. Amsting. Temporairement, tout va bien se finir. Mais l'histoire n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore retrouvé les quatre rassemblés. Alors, n'oubliez pas de prendre connaissance de la prochaine émission « Je lis pour vous ». Vous pouvez l'écouter en direct sur la radio, Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB+, ou la trouver dans le podcast sur notre site www.radioallianceplus.fr. À très bientôt, chers auditeurs.